un podcast France Culture.
Cette semaine, l'économie rencontre la littérature, nouvelle série consacrée à l'ascension sociale dans les romans. Avant d'évoquer Martin Eden de Jack London et L'art de la joie de Goliarda Sapienza, nous nous glissons aujourd'hui dans les salons de l'aristocratie parisienne où Julien Sorel, le héros du Rouge et le Noir de Stendhal, tente de se faire une place. Comment ce fils d'un sieur de planches va-t-il réussir à devenir le chevalier Julien Sorel de la Vernaie? C'est notre sujet jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'un des premiers transfuges de classe de la littérature, nous sommes en compagnie à distance de Claude-Isabelle Brelot, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Lumière Lyon 2 et autrice de cet ouvrage « La noblesse réinventée, noble de Franche-Comté de 1815 à 1870 » paru aux Belles Lettres. Également avec nous en duplex d'Aix-en-Provence, Yvan Sel, professeur émérite de littérature française à l'université de Nantes, auteur de ce chapitre « Stendhal et l'argent, contes petits et grands » dans un ouvrage collectif intitulé « La littérature au prisme de l'économie » chez Garnier Flammarion. Une émission préparée par Aliette Ovine, Léa Sabourin, Diane Devancet, Laurence Genepin et Emma Taillefer.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons, blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Un torrent traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous.
Bonjour Yvan Sel et Claude-Isabelle Brelot. Bienvenue à tous les deux. Le Rouge et Noir débute donc dans la petite ville de Verrières. C'est là que naît Julien Sorel. Il est le fils d'un sieur de plomb, je le disais en introduction. Et en tant que tel, il est considéré tantôt comme un paysan, tantôt comme un ouvrier, Yvan Sel.
Oui, tout dépend de qui regarde Julien Sorel. Il est effectivement, le narrateur au début parle de paysan. Ensuite, lorsqu'il arrive chez Monsieur de Rênal, on le traite d'ouvrier déguisé en précepteur. Et lorsqu'il sera à Paris, évidemment, ça sera un petit bourgeois. Donc tout dépend de qui regarde le héros. Mais il est effectivement caractérisé essentiellement comme fils de paysan. D'ailleurs, le texte, lors du procès, c'est il se présente en tant que paysan. Et quand il dit « je ne vois pas des pères, je ne vois pas mes pères », il dit « je ne vois pas des paysans ». Me jugeant, mais des bourgeois enrichis. Donc, Julien Sorel se considère plus comme paysan, mais en fait, le village et la ville elle-même le considèrent comme fils de charpentier. Quoi qu'il en soit, quels que soient les appellatifs, l'essentiel, c'est qu'effectivement, il est considéré comme un inférieur.
Oui, et seulement très tôt, il fait montre d'une grande curiosité et de grandes aptitudes intellectuelles. C'est ça qui le caractérise, Yvan Sel, ainsi que sa très grande ambition.
Oui, alors il est caractérisé de deux manières. D'une part, il apprend à lire et son père est analphabète. Et puis, par ailleurs, comme dans les contes de fées, c'est le petit dernier, c'est celui qui est le plus handicapé. Ses deux frères sont des brutes qui débitent le bois et Julien Sorel n'a pas la force. Donc, de ce point de vue, il est un petit peu le canard boiteux de la famille. Mais évidemment, il a une ambition et cette ambition, d'une part, ça le fait lire. Il devient donc l'élève de Chélan et il décide, il pense au départ, effectivement, qu'il va pouvoir réussir. Puisque nous sommes après 1815 et que le destin de Bonaparte n'est plus possible, on ne peut plus vaincre par l'épée, il a compris très vite qu'il fallait être prêtre. Mais comment et comment réussir? Il est ambitieux, Stendhal, le narrateur le dit, mais la première phrase, c'est faire fortune, c'est sortir de Verrières. En fait, Julien Sorel, faire fortune, c'est pas forcément avoir de l'argent. D'ailleurs, on le verra dans le roman, c'est un peu paradoxal pour un ambitieux. Il veut faire fortune sans passer par l'argent, ce qui est quand même un peu curieux. C'est quelqu'un qui déteste l'argent.
Donc, c'est ce qu'il distingue peut-être des héros balzaciens, Yvan Sell ? Ah,
tout à fait. Il est tout à fait. Il n'est pas du tout. La tradition en a fait un héros ambitieux dans la ligne. Enfin, à l'origine de Rastignac ou de Bellamy de Maupassant, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, Rastignac finit ministre et Bellamy a une belle carrière et Julien Sorel finit guillotiné. Donc on voit bien que c'est pas un peu les parcours sont très différents et donc de ce point de vue, qu'on vient d'insister sur le fait que l'ambition de Julien est un peu plus complexe et que bon, on en reparlera. Mais vouloir être ambitieux et faire fortune en n'aimant pas l'argent, en n'aimant pas non plus les ambitieux, parce que dans le roman il y en a trois. Hein, il y en a trois qui sont comme Julien Sorel. Il y a Valenod qui est parti de rien et qui lui fait en sorte de, il a des plans, il trafique, etc. Et vous avez Frilair qui est l'homme de l'ombre. Ces deux ambitions-là réussissent. Julien Sorel est ambitieux, mais il prend pas le même chemin qu'eux, donc du coup son chemin sera un peu raccourci.
Sinon, on va revenir sur la stratégie évidemment de Julien Sorel pour s'élever socialement. Mais d'abord, c'est en 1830 que Le Rouge et le Noir est publié. Alors il faut rappeler que c'est le second roman de Stendhal après Armance, et il se déroule à la fin de la Restauration sous le règne de Charles X. Stendhal a cherché à peindre la France telle qu'elle est en 1830. Ce sont ses propres mots. Pourquoi est-ce que cette période l'intéresse, Yvan Sell ?
Ben, elle l'intéresse pour des raisons d'abord tout simplement biographiques. Il se trouve que Stendhal a connu cette période de la Restauration. Après, il a suivi Napoléon et après, de 1815 à 1830, il a suivi de près l'actualité française. Il faut bien savoir, c'est une chose que l'on ignore lorsqu'on parle de Stendhal, on parle toujours du romancier, mais avant d'être romancier, il a fait autre chose. Et en particulier, il a été journaliste. Il a écrit pour les revues anglaises de 1822 à 1829. Et en fait, son travail, c'était en fait de faire une newsletter, si on peut dire, mensuelle. Et il parlait de l'actualité à la fois politique et culturelle. Si bien que Stendhal est vraiment quelqu'un qui est au fait de tous les petits faits vrais, grands et petits, de la Restauration. Et le rouge et le noir est lesté de ces faits. Donc s'il prend effectivement le destin de Julien Sorel court en gros les années de Charles X, 1824-1830, c'est une période que Stendhal connaît parfaitement bien.
Et alors, on va évoquer les différentes étapes de la trajectoire de Julien Sorel, mais il faut peut-être commencer par dire que c'est à Paris qu'il va véritablement connaître une ascension sociale fulgurante. Monter à Paris, c'est un mythe au XIXe siècle, c'est un mythe qui traverse toute la littérature de l'époque, Yvan Sell.
Oui, alors c'est un mythe qui se met en place, on le voit mieux chez Balzac, mais il est en place dans les romans de Stendhal où on a la province et Paris. Et Paris est la capitale qui en fait concentre toutes les ambitions. C'est là qu'il y a. Et Julien fantasme, mais vous savez, Madame Bovary, quelques décennies plus tard, fantasmera sur Paris. Julien imagine que d'abord, à Paris, ce sont les belles femmes. On le voit d'entrée, il pense que s'il va à Paris, il sera reconnu. Et ensuite, il se rendra compte que, bon, Monsieur de Rênal, lorsqu'il a des affaires importantes, il va à Besançon d'abord, et ensuite il va à Paris, parce que c'est à Paris que tout se décide. Et donc, Julien Sorel, pour un ambitieux, il sait que le centre de l'intrigue, le centre de la puissance, le centre du capital, c'est dans la capitale. Et donc, effectivement, c'est un mythe qui se met en place tout au début du siècle, et tous les provinciaux rêvent d'aller à Paris, les ambitieux, bien sûr, rêvent d'aller en Paris. Et donc, sortir de Verrières, c'est pas aller à Besançon. Besançon, c'est la capitale de la province, mais évidemment, la finalité, c'est d'aller à Paris. Et dans l'édition originale, le roman est en deux volumes, et le premier volume s'arrête évidemment la partie provinciale. Julien quitte le séminaire, et la deuxième partie, c'est quand Julien arrive à Paris.
Et Stendhal, donc, qui est né en 1783, a vécu une trajectoire similaire, puisqu'il vient lui-même de Grenoble, et il est lui aussi monté à Paris. Cette opposition entre Paris et la province, Claude-Isabelle Brelot, elle est particulièrement forte pendant la Restauration, qui commence donc en 1815, à la chute de Napoléon, particulièrement forte, surtout aux yeux de l'élite.
Oui, parce que Paris est le symbole de l'excellence mondaine, les salons les plus prestigieux se tiennent à Paris, et puis Paris, c'est aussi le siège du pouvoir. On peut simplifier les choses en disant que Paris prend le relais de la cour au plan politique, mais aussi au plan mondain. Et donc, c'est un élément, l'opposition entre Paris et la province est de nature fondamentalement symbolique. Elle est très importante.
Et d'ailleurs, notre héros Julien Sorel va devenir le secrétaire du marquis de La Mole. Ce dernier est l'archétype de cette aristocratie parisienne enviée par les élites provinciales, Yvan Sel.
Je ne sais pas si c'est l'archétype. Ce qui est sûr, c'est que de même que Monsieur de Rênal est quelqu'un qui a des biens, mais Monsieur de Rênal est un industriel. C'est lui qui possède la fabrique de clous. Donc les aristocrates, ce sont quand même des gens qui se mettent à la page, si je puis dire. Et Monsieur de La Mole est quelqu'un qui a des terres immenses. Enfin, il en a un peu partout. Mais c'est également quelqu'un qui est bien en cour, qui intrigue pour être, qui est près du pouvoir, et il boursicote. Il est à même de jouer comme le dit le texte, il jouait la rente avec bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur de La Mole est au fait de certaines réalités et en fait, il est coupable de ce qu'on appelle aujourd'hui le délit d'initié, c'est-à-dire qu'il spécule à bon escient parce qu'il a les informations qui sont réservées à une certaine personne. Donc, Julien ne s'illusionne pas, hein, c'est-à-dire que souvent, on voit dans Monsieur de La Mole quelqu'un, un vieillard aimable, très poli, il a une perruque d'ancien régime, mais c'est quelqu'un qui est en sous-main, même en sous-main, il milite. On sait que la note secrète, c'est une tentative pour essayer d'enrayer tout le progrès du libéralisme. Donc, c'est un réactionnaire, mais c'est un réactionnaire qui est dans l'air du temps et qui joue à la bourse. Donc, c'est une aristocratie. Dans Le Rouge et le Noir, on le voit très bien, c'est une aristocratie qui a pris le virage des temps modernes.
Et que ce soit chez Madame de Rênal, donc à Verrières, ou chez le marquis de La Mole à Paris, Julien Sorel va tout faire pour faire oublier ses origines modestes, notamment en essayant d'acquérir les codes du monde auquel il aspire, Yvan Sel.
Oui, alors c'est le problème du transfuge, hein, c'est-à-dire lorsque Julien arrive chez Monsieur. En fait, la plus petite distance entre la scierie paternelle et le château de Monsieur de Rênal, il y a quelques kilomètres, mais c'est la plus grande distance sociale que parcourt le héros. C'est-à-dire lorsqu'il arrive chez Monsieur de Rênal, il ne sait rien. Et d'ailleurs, c'est Madame de Rênal qui va l'éduquer. Il ne sait pas évidemment parler, il n'a pas le langage, il n'a pas les codes. Et ce sera surtout sensible à Paris. Il y a dans le chapitre où il écoute ce que dit Mathilde avec ses soupirants et il y a le langage des salons et Julien ne possède pas les clés de ce langage. Et d'ailleurs le marquis, pour que Julien sache marcher convenablement, va lui apprendre à danser parce que Julien évidemment la démarche lourde du provincial, il n'a pas, et donc il y a toute une éducation mondaine de Julien. Il lui faut plusieurs mois pour devenir finalement dandy, avoir intériorisé tous ses codes. Alors le problème, c'est que Julien intériorise parfaitement ses codes, mais évidemment, la morale laisse à désirer et c'est ce qui fait qu'il est en porte-à-faux. Mais extérieurement, Julien est quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'il fallait faire et comment il fallait s'intégrer. Et de ce point de vue, il réussit parfaitement.
Monsieur le Marquis, voici Julien Sorel.
Ah, et voici le Marquis de La Mole, Monsieur Sorel. Je vous souhaite la bienvenue. L'habit est bien. Combien de chemises avez-vous pris chez la lingère?
Deux.
C'est un commencement. Prenez encore 22 chemises. Norbert, je te demande tes bontés pour Monsieur Julien Sorel, que je prends dans mon état-major et dont je prétends faire un homme, si cela se peut.
Montez-vous à cheval, monsieur?
Ça ne m'est pas arrivé 6 fois dans ma vie.
Eh bien, alors, la prochaine fois sera la 7e. Demain, s'il vous plaît.
Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prit des leçons de danse?
Julien n'est pas prêtre, mais...
Ça lui fera du bien. Il y a dans sa démarche un je ne sais quoi de provincial qui peut être aisément corrigé.
Eh bien,
il est effroyablement poli. Il n'y a pas un de ces mots qui m'ait blessé. Je ne suis donc plus un homme d'église.
Vous l'êtes toujours. Mais qu'est-ce qu'un homme d'église pour eux? Un valet de chambre nécessaire à leur salut.
Monsieur, je crois que je ne resterai pas longtemps à Paris.
Vous êtes le fils d'un charpentier et au gage de son père. Vous n'avez pas idée de ce mépris-là. Il ne se montrera que par des compliments exagérés. Si vous êtes un sot, vous pourrez vous y laisser prendre. Si vous voulez faire fortune, il faudra vous y laisser prendre.
Julien Sorel, ou la passion comme capitale, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de Claude-Isabelle Brulot et d'Yves Ancel. Alors on vient d'entendre un extrait du film de Claude Autant-Lara de 1954 avec Gérard Philippe dans le rôle de Julien Sorel. Claude-Isabelle Brulot, ce que Stendhal manifeste dans Le Rouge et le Noir, c'est une perception très fine des classes sociales et de la lutte qui s'instaure entre elles.
Effectivement, la distance sociale s'exprime à travers des codes, à travers d'infimes nuances dans la vie de société, dans le déroulement des réceptions, des salons, des bals. Et là, c'est un obstacle important à la volonté d'ascension sociale, d'apprendre. Que ces codes, il faut les apprendre, il faut les maîtriser. Et c'est pourquoi Le Rouge et le Noir est un roman d'initiation.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que grâce à la suppression des ordres au lendemain de la Révolution française, Claude-Isabelle Brulot, les possibilités d'ascension sociale au début du 19e siècle n'ont peut-être jamais été aussi grandes.
La fluidité de la société française culmine entre la fin de l'Ancien Régime et puis la Révolution de 1830. En 1789, la société française est structurée en ordres, trois ordres, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Ces ordres sont supprimés en 1790 et donc la société se trouve comme juridiquement libérée de la rigidité de cette structuration par ordre.
La Révolution qui a entraîné un déclin financier de la noblesse, au moins dans les années qui ont suivi 1789, Claude-Isabelle Brulot.
La noblesse vit parfois difficilement pendant le cours de la Révolution française. Une partie d'entre elles, ou en tout cas une partie de ses membres, ont émigré à partir de l'entrée de 1792, de la déclaration de guerre à l'Autriche. Et donc, lorsqu'émigration il y a eu, les difficultés matérielles sont importantes. Cela ne signifie pas forcément déclassement. Et très rapidement, après le retour en France, à partir de 1800-1801, lorsque une amnistie est décrétée en faveur des ci-devant émigrés, la noblesse retrouve les biens qui n'ont pas été vendus, elle retrouve sa supériorité sociale et sa supériorité mondaine. On peut dire qu'elle surplombe au plan mondain tout l'ensemble de la société française.
Oui, et puis sur le plan purement financier, il y a cette indemnité de 1825, lorsque le roi Charles X décide de voter cette indemnité pour les nobles qui ont immigré pendant la Révolution, ce qu'on appelle la loi du milliard aux émigrés. Et puis il y a aussi des nobles qui ont su profiter de la Révolution en rachetant des biens du clergé, par exemple, Claude-Isabelle Brulot.
Oui. On compte nombre de nobles d'Ancien Régime parmi les acquéreurs de biens nationaux lorsque les biens du clergé sont mis en vente. Et donc la noblesse s'adapte, elle s'adapte en spéculant, donc en spéculant aussi sur les biens nationaux. Mais enfin, il ne faut pas exagérer l'importance du milliard des émigrés. Il arrive relativement tardivement, en avril 1825, et la restauration matérielle de la noblesse est bien antérieure. Elle se développe, cette restauration matérielle et financière, dès les années du consulat et de l'Empire. Les nobles reconstituent leurs propriétés foncières. C'est l'assise fondamentale de la fortune nobiliaire que la terre. Et cette restauration foncière de la noblesse, elle précède donc la restauration politique en 1814 puis 1815 et ce que devait être la loi du milliard, donc la restauration des fortunes des anciens émigrés. Mais en fait, la noblesse n'a pas retrouvé ses anciennes propriétés. La royauté ne l'a pas voulu ainsi. Elle a simplement perçu de l'État, si j'ose dire, en disant simplement, elle a perçu des rentes sur l'État. Et par certains côtés, on peut dire que la noblesse rejoint la bourgeoisie dans ce statut de rentier, et c'est un facteur sans doute pas négligeable d'embourgeoisement. Alors, de la noblesse.
Ça, c'est un aspect qui est très intéressant, puisque cela apparaît dans Le Rouge et le Noir, cette concurrence naissante entre aristocratie et bourgeoisie. Claude-Isabelle Brelot, une concurrence qui est liée au déclin de la noblesse après la Révolution, un déclin qui est, sinon financier, au moins symbolique.
Il est bien plus symbolique que matériel ou financier. La noblesse reprend ses titres en 1814, et elle reprend toute son importance politique dans l'administration de l'État et dans le gouvernement de l'État. Elle reprend aussi son importance au plan économique du fait de sa restauration foncière, et elle retrouve cette domination mondaine qui fait sa grande particularité tout au long du XIXe siècle, et cela de plus en plus au fil des décennies.
Et on le voit dans le salon du marquis de La Mole, hein, puisque l'accès à ce grand monde, Yvan Sel, se fait en fonction de l'ancienneté de la famille et du caractère brillant du nom.
Oui, elle se fait au nom de l'ancienneté, et donc Madame la marquise de La Mole ne jure que par ceux qui ont des ancêtres ayant été aux croisades. Cela dit, c'est le discours officiel de l'aristocratie. D'une part, le marquis de La Mole, comme je l'ai dit précédemment, spécule et essaie effectivement de. En fait, il essaie de composer avec toutes les espèces sociales. La preuve en est, c'est que Monsieur le marquis de La Mole finit par accueillir dans son salon Valenod, qui est quand même un enrichi, qui est le prototype même du parvenu enrichi, et simplement Monsieur La Mole sait qu'il faut composer avec tout le monde. D'ailleurs, le marquis de Croisenois remarque que le marquis de La Mole, je ne sais comment fait-il, dit-il, mais il est bien avec toutes les nuances. Et donc, on voit bien que le marquis de La Mole ne campe pas sur ses positions, mais sait parfaitement que la noblesse ne peut pas s'arc-bouter sur des privilèges anciens, mais qu'il faut qu'elle s'ouvre évidemment à ceux qui talonne le pouvoir. Alors, le plus intéressant, c'est peut-être ce qui se passe à Verrières, où là, on a Monsieur de Rênal qui est un industriel, mais il est concurrencé par Valenod, et il se trouve que Valenod va prendre la place de Monsieur de Rênal. Il va devenir maire de Verrières, et Valenod va devenir baron, et il va être accueilli par Monsieur de La Mole, et donc il finira effectivement dans les allées du pouvoir. Donc ça, Stendhal est très sensible à la porosité. Il est évident que sur le devant de la scène, c'est l'aristocratie qui domine. Cela dit, il y a les lignes bouges. Et Frilair, bon, donc, qui est un autre ambitieux, lui, son ambition, c'est de finir évêque. Et donc, lui aussi, en coulisses. Et on voit bien tous ces gens qui sont là et qui sont dans l'ombre et qui montent. Alors, la finalité du Le Rouge, hein, si on prend l'autre roman, Lucien Leven, c'est le roman des banquiers. Et là, l'aristocratie a perdu, si je puis dire. C'est le monde de la banque. Et c'est Monsieur Leven. Et c'est la banque qui domine les politiciens et qui domine, évidemment, l'aristocratie. Donc là, on voit bien que dans Le Rouge et le Noir, on est vraiment à une période clé où les choses, l'aristocratie domine, mais Stendhal montre bien qu'il y a effectivement des nouveaux arrivants et des nouveaux parvenus.
On a bien.
Le pouvoir est en train progressivement de glisser vers la banque et vers la finance. Valenod et le chapitre, c'est un financier de province, et Valenod va l'emporter sur Monsieur de Rênal. Et ça, c'est pour Stendhal, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour lui.
On l'a dit, hein, la période de la Restauration correspond à ce retour en grâce de la noblesse après le traumatisme de la Révolution française. Et c'est un monde, celui de l'aristocratie parisienne, Claude-Isabelle Brelot, qui va à nouveau se fermer sur lui-même, se reconstituer comme une caste.
La partie la plus ancienne de la noblesse, le faubourg Saint-Germain, effectivement tend à se refermer sur lui-même. Cette nouvelle fermeture de la noblesse sur elle-même, elle est en partie liée à l'importance du fonctionnement des réseaux, et notamment des réseaux matrimoniaux au sein de la noblesse. Les familles les plus anciennes prennent garde de se mésallier avec des familles de noblesse récentes, et donc le faubourg Saint-Germain devient la quintessence de cette haute noblesse reconstitué dans Paris comme rival de la cour royale.
1830, c'est la date de publication du Rouge et le Noir. C'est aussi l'année où Hector Berlioz crée sa symphonie fantastique. Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Julien Sorel ou la passion comme capitale, c'est notre sujet aujourd'hui. Premier épisode de notre série sur l'ascension sociale dans la littérature. Le professeur de lettres modernes Yvan Sel et l'historienne Claude-Isabelle Brelot sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Colin Gruel et mise en onde aujourd'hui par Félix Delacour. Nous poursuivons notre exploration du Rouge et le Noir de Stendhal. Et à cette époque, la restauration donc, où la mobilité sociale est de plus en plus facile, Julien Sorel, notre héros, est traversé par des rêves de grandeur. Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il voyait glaçait son imagination. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors, il songeait avec délice qu'un jour, il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles, comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais ? Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines et enfin s'empara de lui avec la toute-puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointement, c'est-à-dire trois fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête homme jusqu'ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de 30 ans. Il faut être prêtre. Julien Sorel veut donc réussir comme son héros Napoléon. D'où lui vient cette passion pour l'empereur, Yvan Sel ?
Cette passion pour l'empereur, bon, il faut rappeler que Stendhal était au service de Napoléon, donc là il y a une donnée biographique, mais essentiellement Napoléon, pour Julien Sorel comme pour Rastignac ou pour beaucoup de héros balzaciens, Napoléon, le texte le dit, c'est celui, dans l'imaginaire de Julien, c'est celui qui est parti de rien et s'est fait grâce à son épée, Arcole, Rivoli et les autres batailles illustres. Donc pour Julien Sorel, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire le modèle même de celui qui, parti de rien, finit empereur et met des couronnes sur la tête de ses frères et sœurs dans toute l'Europe. Donc là, c'est vraiment le modèle insurpassable. Quelquefois, on dit la réalité, la fiction dépasse la réalité, mais là, c'est une évidence. Hein. Qui aurait pu inventer un personnage comme Napoléon ? Ça dépasse évidemment l'entendement. Et on comprend très bien que un ambitieux fantasme, délire un peu sur Bonaparte. Alors évidemment, le jeune Julien, un peu comme les jeunes, ont des icônes, c'est une icône, et il ne mesure pas tout ce qu'implique la stratégie de Napoléon. Il imagine que Joséphine de Beauharnais est tombée amoureuse du jeune général, mais les choses sont un peu plus complexes. D'ailleurs, la figure de Napoléon évoluera au cours du roman, au fur et à mesure que Julien Sorel lui-même pénétrera certaines réalités sociales, et à la fin, Napoléon va tomber, hein, l'aigle va tomber, parce que Julien se rendra compte qu'il a volé, qu'il a triché, et qu'il a menti, quoi, que c'était un charlatan.
Ce qu'il faut dire aussi, et ça apparaît dans le texte, c'est qu'apparaît à l'époque de Napoléon, l'armée, c'est l'un des grands lieux de la mobilité sociale, Claude-Isabelle Brelot.
L'armée a été un des lieux majeurs de la mobilité sociale, mais davantage pendant les années de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, que pendant la Restauration. Mmh. La Restauration, en effet, marque le retour à la petite France, après le traité de Paris, et la guerre, enfin la paix, n'assure plus aucune possibilité de promotion sociale ou de promotion dans la carrière. C'est le drame des demi-soldes à partir de 1815. Mais l'armée, avant 1814, a été effectivement un des lieux majeurs de l'ascension sociale, bah, tout simplement parce qu'on est en période de guerre pendant 10 ans, et que par conséquent, la promotion de grade en grade est possible. Et puis, l'armée offre le prestige symbolique de l'uniforme, des épaulettes, et la possibilité des décorations conférées par le premier consul, puis par l'empereur.
C'est notamment le cas du père d'Alexandre Dumas. Ça lui permet de faire une belle carrière, lui qui était métis, qui est l'un des premiers métis qui devient, je crois, général, Claude-Isabelle Brelot.
Effectivement, sous le Premier Empire, les promotions les plus brillantes se font au sein de l'armée, avec la création des titrés du Premier Empire, ce qu'on appelle familièrement les anoblis du Premier Empire. Les anoblis du Premier Empire, ce sont d'abord des chevaliers, des barons, des comtes qui ont conquis leur titre à la pointe de l'épée, et qui se sont vus donc consacrés dans leur mérite militaire par Napoléon Ier. Mmh. C'est donc la création du groupe des titrés du Premier Empire, des anoblis du Premier Empire, qui est aussi un des lieux majeurs de la promotion sociale, en tout cas au niveau des élites.
Et ce sont des titres qui sont accordés par l'empereur pour récompenser le mérite militaire, mais aussi le mérite administratif, Claude-Isabelle Brelot.
Oui, le mérite administratif, puisque au fur et à mesure que s'écoule le Premier Empire, les titrés du Premier Empire ne sont plus seulement des militaires, mais aussi les maires des bonnes villes de l'Empire, des magistrats, des administrateurs des ministères, et donc coexistent au sein du groupe des anoblis d'Empire, à la fois des civils et des militaires.
Et ces nouveaux titres sont, j'imagine, très mal vus par la noblesse ancienne ?
Ben pas tellement. Enfin, ils sont mal vus. Ils sont mal vécus. Ils sont vécus comme une rivalité par la noblesse ancienne. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans le groupe des anoblis du Premier Empire, il y a 20% d'anciens nobles. Napoléon a eu pour souci d'attirer à lui, d'attirer à sa cour, ces nobles de l'Ancien Régime qui avaient les codes de la vie mondaine, qui avaient les codes d'un rang social supérieur. Et donc, il a cherché à aspirer à lui ces grands noms de la noblesse de l'Ancien Régime. Ce sont les contrefaits, ces nobles qui le sont, si j'ose dire, à double titre, au titre de la noblesse ancienne, mais aussi du fait de la faveur que leur concède Napoléon Ier.
On a évoqué le moment où Julien Sorel est précepteur dans la maison de Monsieur de Rênal, mais il va avoir cette liaison évidemment avec Madame de Rênal, une liaison révélée par Elisa, une domestique jalouse puisqu'elle avait proposé à Julien de l'épouser et elle avait été rejetée. Et c'est à ce moment-là que Julien va entrer au grand séminaire de Besançon. Devenir prêtre, c'est alors un moyen de s'élever dans la société, Claude-Isabelle Brelot, sous la Restauration?
Tout à fait. Notamment pour la paysannerie, pour le monde rural français, le séminaire est une des voies de l'ascension sociale, ne serait-ce que parce qu'il y est dispensé la culture savante. Au séminaire, il faut maîtriser le latin, on apprend le latin, et le rouge et le noir le montrent parfaitement, en est une parfaite illustration. Et par conséquent, le clergé a ce privilège de la culture savante. Et puis, lorsque un séminariste, au terme de ses études de séminaire, est admis à la prêtrise, il reçoit une cure. Il a donc, de par le régime concordataire, un traitement. On peut dire, en simplifiant les choses, qu'il devient fonctionnaire de l'État, avec un traitement qui n'est pas nul. Pour un curé de deuxième classe, le traitement est de l'ordre de 1000 francs par an, ce qui n'est pas rien. Et pour les desservants, de 800 francs par an, ce qui permet l'accès à l'aisance rurale, peut-on dire.
Et alors justement... D'où vient ce titre, pardon de vous couper, Claude-Isabelle Brelot, le rouge et le noir? Est-ce que ça évoque le rouge, l'armée, et le noir, le clergé? Ça, c'est l'une des interprétations possibles, éventuelles, mais il y en a beaucoup.
C'est l'interprétation que l'on a donnée, mais elle ne peut pas être vraie. Pour une bonne raison, c'est que le rouge n'a jamais été la couleur de l'armée française. Le rouge, ce sont les Anglais, comme le découvre Fabrice Dandongo sur le champ de bataille de Waterloo, ou bien si on regarde le film de Kubrick. Le rouge n'a jamais été la couleur de l'armée française, et donc l'interprétation traditionnelle ne tient pas. Alors ensuite, que veut dire le rouge et le noir? Autant le noir, l'habit noir de Julien renvoie à la prêtrise, ça c'est net dans le roman, autant le rouge, personnellement, je n'ai jamais vu à quoi il renvoie, et donc je m'abstiendrai de toute interprétation.
Ça renvoie aux femmes.
La passion, ça peut être le sang du guillotiné, vous savez, à partir de là, toutes les interprétations seront permises, et donc voilà, je laisse l'interprétation. Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation traditionnelle, le rouge, l'armée, n'est pas valide.
Ne fonctionne pas. Alors Julien Sorel, on le disait au début de cette émission, est originaire de Franche-Comté, c'est là qu'il voit le jour dans la petite ville de Verrières. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'industrialisation de cette région en ce début du 19e siècle, Claude-Isabelle Brelot?
La figure de Julien Sorel est tout à fait emblématique des mouvements économiques profonds qui transforment la société dans cette région de la Franche-Comté. Le père de Julien Sorel est présenté comme un charpentier ou comme un scieur de long. Effectivement, de 1780 jusqu'aux années 1880, et même au-delà, jusqu'à l'entre-deux-guerres au XXe siècle, la région connaît tout un mouvement d'industrialisation rurale dont est emblématique la scierie établie au fil de l'eau du père de Julien Sorel.
Oui, c'est vraiment l'énergie hydraulique qui est déterminante à ce moment-là, avec un commerce du bois qui monte en puissance. Je crois que le prix du bois culmine autour des années 1830, Claude-Isabelle Brelot.
Oui, le prix du bois culmine en 1835, en tout cas en Franche-Comté. C'est l'une des grandes spéculations de l'époque. les propriétaires fonciers sont avides de propriétés forestières qu'ils donnent en exploitation aux maîtres de forge comme Monsieur Drénal.
Et donc il y a le bois et puis la métallurgie qui est aussi très importante en Franche-Comté à cette période.
Les forges franc-comtoises constituent, dans leur ensemble, et avec celle de Bourgogne, la première nébuleuse métallurgique de France dans les 20 premières années du 19e siècle. Alors évidemment, ce ne sont pas des concentrations métallurgiques, des concentrations industrielles. Il s'agit d'une nébuleuse de petites forges, un semis de forges, toutes établies au fil de l'eau, et qui sont actionnés par les moteurs hydrauliques.
Et l'industrie permet de s'élever dans la société. C'est pour cela que Stendhal écrit dans Le Rouge et le Noir que Monsieur de Rênal rougit d'être industriel, Yves Ancel.
Il rougit d'être industriel puisque, en principe, un aristocrate, travailler, c'est déroger. Donc, sous l'Ancien Régime, déjà, il y avait eu des autorisations, les manufactures, parce que, effectivement, la noblesse doit aussi pouvoir asseoir son pouvoir sur l'industrie. Et M. de Rênal rougit d'être industriel parce qu'effectivement, normalement, les industriels sont ses adversaires, ce sont les libéraux. D'ailleurs, dans tout le roman, il n'arrête pas de se plaindre des libéraux enrichis qui vont lui prendre la place et qui, eux, sont des industriels à taux plein, si je puis dire. Et donc, rougit d'être industriel, mais il fait partie de ces industriels. Et sa fortune repose sur son usine à clous. Et ce qui est quand même, donc, on n'est plus dans l'aristocratie ancienne. Monsieur de Rênal, lui-même, a suivi le cours du siècle. Et même, si on lit le roman, on s'aperçoit que sans doute, il était employé par l'empereur Napoléon. Il en parle et il dit l'empereur Napoléon. Si bien qu'il était en place avant 1814, il est devenu maire, et donc il y a une continuité entre l'Empire et la Restauration. Monsieur de Rênal est un notable qui était déjà en place sous l'Empire.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler de l'un des premiers transfuges de classe de la littérature, Julien Sorel, le héros de Stendhal. Dans Le Rouge et le Noir, nous sommes toujours en compagnie d'Yves Ancel et de Claude-Isabelle Brelot. Alors, on le disait au début de cette émission, hein, Le Rouge et le Noir, c'est un roman de désir, d'ascension sociale, mais Julien Sorel n'est pas intéressé par l'argent. Ça rejoint le mépris de Stendhal lui-même pour ceux qui recherchent avant tout la richesse, Yves Ancel.
Oui, fondamentalement, Stendhal est quelqu'un qui lui-même n'aimait pas l'argent. Enfin, il dit « en avoir beaucoup ne me fait aucun plaisir et ne pas en avoir, c'est un grand malheur ». En fait, voilà le résumé. Pour Stendhal, il faut avoir assez d'argent pour ne plus y penser. Et son idéal, c'était d'être rentier, d'avoir 6000 francs et de pouvoir écrire des livres. Voilà. Et donc, même dans ses rêves les plus fous, son désir, c'est d'avoir assez d'argent pour vivre au quotidien et aller à l'opéra. Donc, il est évident qu'il n'est pas du tout dans l'optique de créer un héros qui allait dans l'ongle et qui veut faire fortune et pour lequel les rêves les plus fous seraient d'avoir du pouvoir, de l'argent, etc. D'ailleurs, quand on regarde le texte dans le détail, on sait que Julien veut faire fortune, veut aller à Paris, mais quels sont ses plans, quelle est sa stratégie, que veut-il faire ? Le texte est flou là-dessus, parce que les rêves de Julien sont flous. Le seul désir, Julien sait ce qu'il ne veut pas faire. Mais ce qu'il va faire, d'ailleurs, dans le roman, on s'aperçoit que son destin obéit à des coups de pouce, quoi. Il est dans la maison de Monsieur de Rênal, Elisa le trahit, eh bien, il doit aller au séminaire. Au séminaire, c'est un autre miracle. C'est-à-dire, Monsieur de La Mole a besoin d'un secrétaire, l'abbé Pirard pense à Julien, et c'est ce miracle-là qui le conduit à Paris. Ce n'est pas Julien. L'arrivée à Paris n'est pas le résultat d'une stratégie, d'un plan ourdi par Julien. Il y a une suite de hasards qui le mène à Paris.
Mais en l'occurrence, il s'enrichit lorsqu'il entre au service du marquis de la Mole, sauf que Stendhal, en effet, ne le condamne pas parce que cet enrichissement n'est pas le fruit d'un calcul. C'est ça que vous nous dites, Yves Ancel.
Oui, il s'enrichit tout simplement parce que lorsqu'il est précepteur chez Monsieur de Rênal, son salaire de finale est à 600 francs, et Monsieur de Rênal, Monsieur de La Mole, met ses appointements à 2000 francs. Mais ce n'est pas Julien, enfin, c'est le travail de Julien, c'est son travail. Encore une fois, je pense là, Stendhal a créé le premier héros salarié de la littérature, dans le sens où le héros est coté. il est coté sur le marché du travail. Il vaut tant en province, il vaut tant à Paris, il vaut tant dans tel métier, il vaut tant quand il est le secrétaire du Marquis de la Mole. Mais Julien, son métier, Julien, s'il était resté secrétaire, ça ne permet pas de s'enrichir et de faire fortune comme Valenod. Julien, lorsqu'il a sa place de secrétaire, n'intrigue pas pour rentrer dans les salons, pour se créer ce qu'on appelle du capital social. Pas du tout. D'ailleurs, Monsieur Mathilde et Monsieur de la Mole sont d'accord là-dessus. C'est un ambitieux qui joue perso, on dirait aujourd'hui. Et on sait que les ambitieux, ils ne peuvent pas jouer perso. Un ambitieux, il a besoin d'alliés, il a besoin de se construire un plan. Et Julien, c'est une tête brûlée. Enfin, c'est quelqu'un qui dans la place, profite de la place. Mathilde lui fait des avances, donc son courage lui impose d'aller, de répondre à ses avances. Mais ce n'est pas calculé.
Alors c'est un héros qui n'a pas de désir de richesse. En revanche, ce qu'il veut, c'est la gloire, Yvan Sel. Ça, c'est assez clair.
Ah, ça, c'est la gloire et l'honneur. D'ailleurs, quand ce qui fait qu'il retourne à Verrières et qu'il tire sur Madame de Rênal, ce n'est pas... D'ailleurs, il le dit, mon crime n'ayant pas l'argent pour motif ne sera pas ignoble. Parce que, en fait, ce qui le fait revenir à Verrières, c'est son honneur. Il estime que la lettre de Madame de Rênal est une insulte à son honneur. C'est une insulte à sa gloire. C'est une insulte à l'image qu'il a de lui-même, de quelqu'un qui est droit, qui est intègre et qui a le sens de l'honneur. Et c'est ça qui lui insupporte. Et donc, on voit bien, effectivement, que si c'est un ambitieux... qui avait le sens de l'argent, une lettre comme ça, il suffit d'attendre. Je veux dire, bon,
il faut peut-être expliquer le contenu de cette lettre, Yvan Sel. C'est une lettre que Madame de Rênal envoie au marquis de la Mole où elle dénonce l'immoralité de son ancien amant.
Oui, c'est-à-dire que quand Mathilde dit que elle veut épouser Julien, le marquis de la Mole prend des références, prend des informations. Et donc, cette information lui vient via une lettre de Madame de Rênal, lettre qui était imposée par un jésuite, bien évidemment. Et dans cette lettre, Madame de Rênal accuse Julien, pauvre et avide, c'est au moyen d'une hypocrisie consommée que Julien est entré dans la maison. Donc en fait, cette lettre insulte Julien et en fait un héros ambitieux, hypocrite. Et cette lettre, pour Julien, c'est insupportable.
Et c'est pourquoi il se rend à Verrières, il tire sur son ancienne maîtresse, arrêté, il risque la peine de mort. Écoutez donc sa plaidoirie lors de son procès. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni, avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Yvan Sel, que vous inspire cette plaidoirie finale de Julien Sorel ?
Là, on voit que Julien Sorel, là, autant il peut jouer personnel dans le roman, autant là, il fait un discours qui est politique. Et là, c'est un discours de classe contre classe. On voit très bien, il dit, voilà, en moi, vous condamnez quelqu'un d'une classe inférieure et qui a eu l'audace, l'orgueil, la démesure de vouloir passer dans une classe supérieure. Ce qui différencie Julien Sorel, par exemple, du paysan parvenu de Marivaux, c'est-à-dire que là, vous avez non seulement un transfuge, mais c'est un transfuge qui a conscience de transgresser les classes et il a conscience de son état. Et donc, c'est vraiment un plaidoyer politique assez, assez extraordinaire, et qui fait que Julien Sorel, évidemment, de ce point de vue, est vraiment le premier à dire explicitement qu'il y a que dans sa destinée, il y a un problème de classe. Et c'est vraiment ce qui fait du roman de Stendhal un roman assez extraordinaire.
Et c'est véritablement au moment de son procès que Julien Sorel se rend compte, qu'il n'appartiendra jamais à cette haute société à laquelle il aspirait, Yvan Sel.
Il se rend compte qu'il n'appartiendra jamais, mais le problème également, c'est est-ce que vraiment je voulais appartenir à cette classe? Si appartenir à cette classe, c'est trahir mon honneur, voler, mentir et adorer l'argent comme tous ces gens riches adorent l'argent, eh bien l'enjeu n'en veut peut-être pas la chandelle. D'où évidemment le revirement de Julien à la fin et la substitution dans Les Amours après Mathilde de la Mole qui représentait évidemment un amour du côté de l'ambitieux. Il revient à Madame de Rênal, la provinciale, qui elle pour laquelle eh bien, le souci de la carrière n'existe pas. Mmh. Donc là, il y a une volte-face, mais cette volte-face, on la comprend en amont, parce que Julien n'a jamais, évidemment, été du côté de Valenod, de Frilair ou des ambitieux, du petit Tambeau qui est là, qui rôde dans les salons du marquis de la Mole. Non, Julien n'est pas de cette race-là, précisément.
Ce discours de Julien Sorel, Claude-Isabelle Brulot, il a de quoi faire frémir les aristocrates parisiens, puisque effectivement, c'est un discours assez transgressif, presque révolutionnaire.
Oui, c'est un discours transgressif, mais je pense qu'il ne faut pas négliger dans la personnalité de Julien Sorel la dimension de son mérite personnel, de ses talents, comme on le disait au début du XIXe siècle. Au fond, ce qui a distingué d'abord à Verrières comme à Besançon et comme à Paris Julien Sorel, c'est son aptitude à réciter par cœur le texte du Nouveau Testament. Ce sont donc des talents de nature intellectuelle. Et je voudrais signaler là, à cette occasion, que dans les facteurs de classement, dans les facteurs qui font le rang d'une personne dans la société française, il y a certes la naissance pour la noblesse, notamment la noblesse ancienne, il y a aussi la fortune pour la bourgeoisie montante ou pour la paysannerie enrichie, mais il y a aussi le mérite, les talents, et Julien Sorel n'en manque pas. Et au fond, c'est ce qui le distingue d'abord, ce qui lui donne accès à ce statut supérieur au sein de la domesticité des châteaux de précepteur.
Est-ce qu'il lui donne accès à ses hautes fonctions, Yvan Sel? Est-ce que ce n'est pas aussi sa capacité à séduire, puisque l'amour, c'est un moteur de l'ascension sociale chez Stendhal?
Oui, c'est un moteur, mais en même temps, donc Madame de Rênal est séduite par le précepteur, mais Julien, au départ, n'a aucune visée. C'est-à-dire que même, bon, s'il séduit Madame de Rênal, où peut aboutir cet amour? À rien, sinon au scandale. C'est d'ailleurs ce qui se passe. En revanche, le fait que Mathilde soit séduite par celui qui ne ressemble à personne et surtout pas à ceux qui la courtisent, eh bien là, du coup, la séduction de Julien joue. Et là, il en profite. C'est vrai que là, il se dit, voilà, là, moi, petit paysan, je vais séduire cette fille. Et il se trouve que Mathilde elle-même pousse plus loin et c'est elle qui veut épouser, qui devient enceinte et qui veut épouser Julien. Donc là, son roman, évidemment, le roman de l'ambitieux, était parfait. Mais on ne peut pas dire que Julien séduit Mathilde en pensant qu'évidemment, c'est le paysan qui va épouser la princesse de Babylone.
Et Yvan Sel, est-ce qu'on retrouve ce désir d'ascension sociale dans d'autres romans de Stendhal?
Dans les autres romans de Stendhal, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'aucun des héros de Stendhal n'aime l'argent. Donc c'est quand même un problème. Le premier héros, Armance Octave de Malivert, veut se déclasser, il veut devenir ingénieur, il se suicide. Lucien Leven est un fils de banquier qui n'aime pas le métal, il le dit à son père, moi le comptoir, etc., ça ne m'intéresse pas. Et finalement, il lui-même ne va pas faire carrière et la fin du roman le montre en retrait. Quant à Fabrice Del Dongo, ben, l'argent lui vient de sa tante et de son héritage et il le dilapide et finalement il meurt également. Donc on n'a pas de héros. Le héros stendhalien n'aime pas assez l'argent, ne suit pas assez les plans pour être vraiment un modèle d'ambitieux. Les ambitieux, il faut les chercher chez Balzac, chez Zola, chez Maupassant.
Et Stendhal a-t-il lui-même réussi à vivre en ayant suffisamment d'argent pour ne pas y songer?
Il a eu des, Stendhal a eu des passages très. Lorsqu'il était au service de Napoléon, là, il a eu suffisamment d'argent. Lorsqu'il a été démobilisé en 1814, entre 1814 et 1830, c'était très difficile pour lui. Il avait un salaire de demi-solde. Et il y a eu des années très, très dures. Et donc, c'est là, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il produit plus, puisqu'il fait des ouvrages, on dira aujourd'hui, alimentaires. Et lorsqu'il retrouve un poste de consul, après 1830, là, il a une aisance matérielle assez confortable, qui lui suffit. Mais cela dit, Stendhal meurt pauvre. Enfin, il meurt avec 3 ou 4 000 francs. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire des économies. À chaque fois qu'il a un peu d'argent de ses livres, il fait des voyages. Il le dépense parce que l'argent, c'est fait pour profiter de la vie, voir des spectacles, voyager. Et ce n'est pas fait pour économiser, thésauriser ou être bon pour les héritiers, comme il le dit.
Ce rapport de Stendhal à l'argent dans sa vie et dans son œuvre, vous diriez que ça en fait une exception dans le paysage des auteurs français du début du 19e siècle ?
Il était, je pense qu'il est un peu à part. D'ailleurs, le fait qu'il soit à part, on le voit bien par rapport à, par exemple, Hugo, Dumas, Georges Sand, etc. Ce sont des écrivains industriels, si je puis dire. Ce sont des gens qui produisent et qui cherchent à gagner de l'argent et qui gagnent de l'argent avec leurs écrits. Stendhal, je fais les calculs, il a gagné très très peu. C'est en fait son salaire avec les écrits, même quand il produit beaucoup entre 1823 et 1830, c'est un salaire d'appoint. Jamais Stendhal n'a eu de gros tirages. D'ailleurs, aucun éditeur ne veut de Stendhal une deuxième fois, c'est-à-dire que quand on a fait l'expérience, non, ça ne rapporte pas assez, donc à chaque fois il doit changer d'éditeur. Et son plus gros contrat, il a été signé à 2500 francs deux jours avant sa mort, mais c'est quand sa cote commençait à monter qu'il est mort. Non, il n'a jamais. C'est un écrivain qui reste un peu en marge de tout ce mouvement qui va conduire les écrivains du 19e siècle à vouloir vivre de leur plume. D'ailleurs, Hugo, Dumas, etc. Stendhal, est, de ce point de vue, est à part. Et c'est ce qui fait que son destin posthume est un peu à part par rapport aux autres romanciers et français.
On parlera justement de l'économie selon Victor Hugo dans notre émission vendredi. Merci beaucoup Claude-Isabelle Brelot et Yves Ancel de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le Rouge et le Noir, dont on a compris que c'était un roman qui s'achevait sur le rejet de la richesse et du désir calculateur d'ascension sociale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Claude-Isabelle Brelot, c'est La noblesse réinventée, noble de Franche-Comté de 1815 à 1870 aux belles lettres. Et puis, les auditeurs peuvent aussi aller voir du côté de la littérature au prisme de l'économie, argent et roman en France au 19e siècle. C'est un ouvrage collectif paru chez Garnier Flammarion. Un grand merci également aux techniciens de France Bleu Provence qui ont assuré ce duplex. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte avec le dernier titre de Canclaude, Crystal in My Mind. Demain, nous relaterons l'ascension et la chute de Martin Eden, le héros de Jack London. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.